IDFM Radio, le média valdoisien.
On parle du chanteur Prince maintenant sur votre radio valdoisienne à l'occasion d'un ouvrage qui est sorti il y a quelques mois. Et pour nous en parler, nous sommes avec son auteur, Ersine Lebovitch. Merci d'être avec nous, journaliste à France Info et passionné de musique.
Bonjour Nicolas,
journalistes,
merci de m'inviter.
Ne sont pas uniquement attachés à l'actualité du moment. Si, bien sûr, pour votre métier.
C'est du journalisme aussi.
Mais
faire
aussi
ce genre de choses.
À côté passionné de musique, envie d'écrire en tout cas sur certaines personnalités avec des parcours un peu hors normes, et puis ce choc brutal pour cet artiste qui a fait un album incroyable, Purple Rain. On a fêté les 40 ans de cet album, c'était l'année dernière, et vous avez écrit un livre qui s'appelle Prince Experience dans la tête du génie, qui retrace un peu sa carrière musicale, mais d'une façon quand même différente. Il a fallu quand même s'appuyer dans un premier temps. Vous vous êtes appuyé sur cet album Purple Rain.
Pas réellement. En fait, le point de départ, c'est surtout la mort de Prince en 2016.
C'est comme ça que ça démarre,
ouais.
Avec ce qu'il a pris.
Alors, d'abord, quand il est mort, nous tous, les fans et même les plus acharnés, on a été extrêmement surpris. Personne ne s'y attendait parce que Prince était jeune. Il avait 57 ans. Il était en pleine forme. On l'avait vu sur scène. Assez peu de temps avant, sa voix n'avait absolument pas bougé, il était vraiment au sommet de son art, en tant que virtuose, chanteur, etc.
Lui qui faisait des concerts aussi.
Ouais, des concerts fleuves, des concerts fleuves. Et on a été d'autant plus surpris lorsque l'info est tombée, quand on a appris qu'il était mort d'une overdose, lui qui était l'homme le plus clean du show business. C'est quelqu'un qui n'avait jamais fumé, qui avait toujours refusé de fumer une cigarette, de boire un verre d'alcool. On raconte même que les tasses de café étaient interdites dans ses loges. Les drogues, n'en parlons pas. Alors évidemment, on savait qu'il avait eu ses expériences, mais rarissimes. Hein, une expérience d'extasy dans les années 80, dont on a beaucoup parlé, autour de la sortie annulée à l'époque du Black Album. Et donc là, on apprend d'un coup, en 2016, que Prince est mort brutalement, qu'il est mort d'une overdose. On n'en revient pas, et l'objet de ce livre est de retracer en réalité tout le chemin sous forme d'une petite enquête à travers sa vie, sa musique, etc., pour essayer de comprendre comment ça a pu se produire. Et c'est vrai que de reprendre le fil des événements aide à comprendre en fait comment une personnalité aussi exceptionnel, un musicien aussi exceptionnel, une vie aussi incroyable peut mener effectivement à un moment aussi dramatique et tragique que cette mort par overdose de fentanyl. On l'a appris ensuite, cette antidouleur qui décime quelque chose comme 100 000 personnes par an aux États-Unis depuis pas mal d'années maintenant.
Fan de Prince ou
oui, bien
comment
sûr.
On peut dire ça? Oui.
Oui, oui, oui.
Oui, carrément.
Ah oui, bien sûr.
Depuis votre...
depuis longtemps, oui. Depuis bon, moi je l'ai découvert un peu comme tout le monde, hein, à l'époque de Purple Rain. J'ai vu les premières images de lui qui circulaient. Alors certains étaient fans, enfin le connaissaient depuis déjà plus longtemps que ça, depuis déjà quelques années, puisque à l'époque en 84, il a déjà 5-6 années de carrière derrière lui. Mais moi je découvre ses premières images à ce moment-là, j'ai 13 ans, et puis ensuite je perds un peu sa trace, et ça revient très très fort à l'occasion de l'album Parade en 86, la musique du film Under the Cherry Moon, qui alors le film pour le coup n'est pas une réussite aussi forte que cet album, et puis ensuite Sign of the Times en 87, Love Sexy, etc. Et là je ne lâche plus jusqu'au début des années 2000. Alors il y a des moments de creux dans la carrière de Prince, enfin il y a des moments où il perd un peu son public, mais c'est presque volontaire chez lui.
Est-ce qu'il change de nom aussi?
Il change de nom, il change de style sans arrêt. Et puis il y a un moment où il
sort. Parce qu'il avait envie de sortir plein de choses comme
oui,
ça.
Voilà, il sort énormément de musique.
Il a fait des albums concept avec des femmes.
Oui, alors il a aussi ses groupes parallèles, ses groupes satellites qu'il organise, pour lesquels il écrit, pour lesquels il compose. En fait, c'est un homme qui a produit énormément de musique, sans doute plus que la majorité, mais peut-être que tous les artistes de son époque. D'ailleurs, c'est pas un hasard si aujourd'hui, dans ses coffres, il y a, dit-on, plus de 50 albums prêts, finis, enregistrés, qu'il a remisés pour diverses raisons au moment où il les a fait. Mais donc moi je le suis comme ça, et puis quand j'arrive à Paris, donc au début des années 2000, là j'ai l'occasion de rencontrer vraiment des fans acharnés depuis très longtemps, c'est-à-dire des gens qui ont suivi toutes ces tournées. Il y a tout un monde parallèle autour de Prince, c'est-à-dire il a peu de fans en nombre, hein. Aujourd'hui on a l'impression que c'était vraiment une superstar, et c'était une superstar, mais c'était pas comme Michael Jackson, c'était pas quelqu'un que la planète entière connaissait en réalité. À sa mort, ça l'est devenu, son décès a eu un retentissement énorme, mais à l'époque, il avait un noyau de fans qui était assez restreint en fait. Alors beaucoup de musiciens, beaucoup d'artistes, c'était un peu le musicien des musiciens, mais des gens extrêmement fidèles et qui ne ratait aucune occasion de le voir lorsqu'il passait en concert, et qui ne ratait aucun de ses disques, évidemment, et même des disques pirates, puisqu'il y a une discographie parallèle de Prince qui est extrêmement importante, notamment des enregistrements de ces fameux concerts que vous mentionniez tout à l'heure.
Vous vous êtes fait plaisir, bien évidemment.
Oui.
En sortant cet ouvrage.
En l'écrivant,
mais,
surtout.
Mais aussi tout en pensant à celles et ceux qui vont le lire, bien évidemment.
Ah oui,
à
énormément.
À pas faire non plus, pas un copier-coller, mais c'est pas évident, parce qu'il y a eu quand même beaucoup de livres déjà décrits, peut-être pas des tonnes et des tonnes,
en fait.
mais des biographies, il en existe.
Ouais,
un peu
pas, mais pas tant que ça, en
pas
réalité.
Pas tant que ça, d'accord.
Non. C'était quelqu'un qui était extrêmement secret. C'était une des clés de sa vie, hein, le secret, le contrôle. Il faisait très très peu d'interviews, il veillait à ce qu'on ne sache pas ce qui se passait dans sa vie. D'ailleurs, on savait pas qu'il prenait des antidouleurs, et personne ne savait qu'il était à l'époque de sa mort accro au fentanyl, hein, d'où la surprise dont je parlais tout à l'heure. Des biographies, on avait quelques-unes, mais en fait, beaucoup de zones d'ombre. Et c'est vraiment à sa mort, en fait, que les portes se sont un peu ouvertes, que les langues se sont un peu déliées. Il faisait signer des contrats de confidentialité à tout son entourage, donc les gens n'ont commencé à parler qu'à ce moment-là. D'où l'intérêt, effectivement, de reprendre tout ça dans l'ordre et de remettre les pièces du puzzle pour essayer de comprendre maintenant cette vie et cet homme hors du commun.
Une chanson préférée sur l'album Purple Rain?
Oui, il y en a plusieurs. Je pourrais citer Wind of Cry, qui est un monument, qui est le single, j'allais dire, qui résume.
C'est un album de tube aussi.
Qui
on
résume
peut dire,
l'album.
Ou pas.
Oui, bien sûr, c'est totalement un album de tube. Oui. C'est le moment de l'explosion. C'est le moment où il fait ce qu'on appelle le crossover, c'est-à-dire en tant qu'artiste noir américain, il conquiert le public blanc, il devient superstar. Et c'est quelque chose qui est planifié par lui, c'est-à-dire il le veut, c'est un de ses objectifs, et il atteint cet objectif avec son immense talent. Ce qui est intéressant, c'est que juste après, il fait pas Purple Rain 2, c'est-à-dire que tout de suite, il veut brouiller les pistes, il veut montrer qu'il est un véritable artiste, donc il change complètement de registre, et il va faire ça pendant des années et des années à chaque album, quitte à perdre une partie du grand public, mais pour lui, c'est pas très important. Ce qui est le plus important, c'est d'être intègre, d'être lui-même, même s'il en a ressenti quelque amertume, et il aurait évidemment souhaité vendre à chaque fois autant que Purple Rain. Mais c'est plutôt avec sa maison de disques, en fait, que des conflits se sont créés autour de ça. Et comme vous le disiez tout à l'heure, il produit énormément de musique, c'est la source de son conflit.
Il est resté quand même longtemps avec la Warner, je crois.
Oui, mais c'est la source de son conflit avec la Warner. C'est-à-dire qu'à un moment donné, lui veut sortir tout ce qu'il écrit, et Warner raisonne comme une maison de disques. C'est-à-dire qu'on sort pas un album tous les 3 mois, encore moins 2 ou 3 tous les mois. Et voilà, et ça pose les bases d'un conflit qui va se terminer terminer, qui va se terminer très mal, puisque Prince en fait quitte la Warner, il y a des procès dans tous les sens, et au final il a quand même triomphé puisqu'il a récupéré la propriété de ses bandmasters deux ou trois ans avant sa mort. Donc ça a duré très très longtemps, mais il a finalement réussi à être un artiste indépendant, ce qui à son niveau était très complexe, et c'est aussi précurseur d'aujourd'hui. Ça passe
l'indépendance aujourd'hui, c'est de plus en plus important. Il y a beaucoup d'artistes qui
le souhaitent, ouais, qui le veulent,
qui gèrent leur carrière de A à Z, qui ont décidé par une maison de disques et qui vendent des tonnes de disques.
Notamment par le biais d'Internet. Et là-dessus, Prince aussi a été un précurseur puisqu'il a lancé son premier site Internet très très tôt, bien avant tout le monde, bien avant d'autres précurseurs comme David Bowie, même Peter Gabriel qui ont fait ça très très tôt. Lui, il a tout de suite senti qu'il y avait là un moyen. Alors c'était un peu balbutiant, il y a eu des petits soucis de logistique, disons, mais il a senti ça, il a été précurseur comme dans beaucoup d'autres domaines, et notamment en musique.
Qui s'est sorti après, hein?
Comment?
Le morceau Kiss de Prince est sorti après Purple Rain?
Oui, c'est sur l'album Parade en 86, dont je parlais tout à l'heure.
Sur l'album Purple Rain, il y a aussi Let's Go Crazy, je crois, non?
Bien sûr, qui est le morceau d'ouverture de l'album. Et puis, il y a la chanson Purple Rain, quand même.
Oui, bien évidemment, qui est un monument.
Monumental, ouais, absolument.
Un morceau qui pourrait durer...
Un hymne.
Un hymne, et puis un morceau qui pourrait durer très longtemps, en fait. Hein. Il y a une partie, justement, où il n'y a que de la guitare.
Oui, il y a un solo de guitare mémorable, et il y a des versions de Purple Rain sur scène qui durent 20 minutes. Oui, bien sûr. Hein, et qui durent très longtemps aussi, au sens où cette chanson fait partie des chansons immortelles, quoi, comme il y en a quelques-unes dans la carrière d'un grand artiste comme ça, comme on pourrait citer, je ne sais pas, Let It Be, Hey Jude pour Paul McCartney et les Beatles, Stairway to Heaven de Led Zeppelin, ce genre de choses. On est dans cette catégorie-là.
C'est un artiste qui a eu énormément de succès dans les années 80, Prince, mais aussi dans les années 90, hein, et alors, qui a su évoluer quand même avec son temps.
Alors non, les années 90, c'est une période creuse pour lui.
Au début
justement.
Des années 90, non, avec j'ai plus le titre en tête.
Love Symbol, Diamonds and Pearls. Oui, Diamonds and Pearls, c'est un gros succès.
Merci.
Diamonds and Pearls est un gros succès, mais en réalité, c'est un peu l'exception dans cette période-là. Alors, ça ne veut pas dire qu'il fait pas de bons albums. Hein. Par exemple, il fait Batman, mais Batman, c'est je veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est 89 ou 90. Et Diamonds and Pearls, Warner se dit c'est bon, il est revenu. Donc on le re-signe, d'ailleurs on lui fait un contrat mirobolant.
Il est en duo en plus,
Il
a une voix féminine.
Mais par contre après, derrière ça vend beaucoup moins, Love Symbol. Et puis ensuite là il commence à sortir des tonnes d'albums, c'est là qu'il change de nom, donc il brouille complètement les pistes et Warner est pas content du tout. Donc là il y a une période compliquée qui commence. Et ça va jusqu'au retour que je situerais en 2002 avec l'album The Rainbow Children. Mais là, il revient sous une autre forme, c'est-à-dire il revient comme le musicien sur scène. Et tout se passe sur scène, c'est-à-dire il a compris en fait assez vite que les maisons de disques et que le disque en tant que produit, c'était fini. Et que ça allait se terminer. On le voit bien aujourd'hui, hein. Les disques ne se vendent plus, sauf des vinyles à 50 euros pièce. Mais enfin, c'est un autre débat. Ça devient un produit de luxe. Les gamins aujourd'hui, ils écoutent tout en ligne. Et quand on aime un artiste, on va le voir en concert. Enfin, c'est là que les artistes s'expriment. Et lui, sur scène, était un musicien absolument exceptionnel. Quiconque l'a vu sur scène dira que c'est l'un des plus grands, sinon le plus beau et le plus grand concert qu'il ait jamais vu. Enfin,
et même s'il était statistiquement très connu, parlant, mondialement connu, il aimait aussi de temps en temps venir à Paris faire des petites scènes.
Hein. Ouais,
c'était des concerts un peu privés, on savait pas forcément.
Pas forcément, parfois public, mais évidemment sous des noms d'emprunt ou parfois en toute discrétion parce que c'est dans des petites salles. Bon, le New Morning, évidemment, c'est un de ses rendez-vous les plus célèbres. Il y a joué trois fois. C'était un moyen aussi pour lui de montrer justement le musicien qu'il était, en dehors des shows énormes qu'il était capable de développer, tout un tas d'improvisations avec son groupe, la façon dont il tenait son groupe, de montrer aussi un répertoire de grands classiques, de la soul, mais aussi du rock, du funk, etc. De faire la fête, quoi, en réalité. Et de montrer qu'il était un vrai musicien, un vrai artiste, de ce point de vue-là aussi. Pas simplement quelqu'un qui, comme Madonna à sa grande époque, faisait des shows, ou Michael Jackson, faisait des shows extrêmement chorégraphiés, magnifiques, très visuels. Lui faisait ça, mais il était capable aussi, dans une petite salle, de prendre une guitare et de faire décoller 300 personnes pendant toute la nuit, s'il le fallait.
On parle de Prince, on parle de Love Symbol, puisqu'il avait aussi ce nom-là, sur IDFM Radio, avec Ersin Lebovitch, qui nous parle donc un petit peu, on survole la carrière de cet artiste, on est à l'aube de ses 10 ans de disparition.
Oui, 2016.
C'était en 2016. L'année prochaine, donc, il y aura aussi des événements, des rééditions.
Sans doute.
Vous écrirez peut-être un livre
aussi. Volume 2. J'ai un peu tout dit là, dans celui-ci, mais pourquoi pas.
On va continuer à parler, en tout cas, de ce livre qui est, de ce roman. C'est un roman, c'est...
Une enquête aussi,
un peu.
Une enquête, c'est ce que vous disiez.
Voilà.
Mais j'accepte tous ces qualificatifs.
Donc, c'est sorti en juin dernier et ça continue en tout cas à faire parler de cette idole. Prince, expérience dans la tête du génie. La maison d'édition, je ne l'ai pas dit, c'est hors collection.
Oui.
Nous sommes toujours avec vous sur IDFM Radio. Ersin, donc Lebovitch, et on va continuer à parler de Prince sur IDFM Radio. On écoute Purple Rain quand même.
Ah oui. Allons-y.
Purple rain, purple.
On parle de cet artiste de légende sur IDFM Radio ce matin en direct dans la matinale avec l'auteur Ersin Lebovitch qui a écrit un livre Prince, expérience dans la tête du génie. Nous faisons maintenant un nouveau point sur la circulation en Ile-de-France. Merci de nous rejoindre sur le 98 de la bande FM ou encore en DAB+. Que se passe-t-il sur les routes? Ou même voir, on va faire aussi un petit point dans les transports en commun. Est-ce que c'est plus ou moins la pagaille? En tout cas, j'espère pas pour vous. Bon réveil avec votre radio.
L'infotrafic sur IDFM Radio.
Il y a actuellement un petit peu plus de 373 kilomètres de bouchons avec des difficultés notamment sur la A15 aux abords d'Erani suite à une camionnette en panne du côté du réseau RATP, métro, vos lignes de bus aussi par exemple, ou les RER. On nous signale actuellement des perturbations encore et toujours sur la ligne E du RER. Comme hier, décidément, vous êtes pas gâtés du tout, les usagers de cette ligne, puisque sur le RER E, le trafic est perturbé sur l'ensemble de la ligne en raison de feuilles mortes. C'est ce qu'on nous indique sur le site ratp.fr. La matinale maintenant, avec une nouvelle fois vos dernières informations proches de chez vous. Le flash valdoisien. Lundi 13 janvier, les occupants de deux immeubles, rue du Tri et un pavillon de Montmorency, ont été obligés de quitter leur logement en urgence à la suite d'un glissement de terrain. 145 personnes évacuées. L'îlot Triangle, un programme de 250 logements prévu dans le centre-ville près de la gare sur 1,2 hectare entre les avenues de la gare Georges Clémenceau et la chaussée Jules César, fait débat à Beauchamp, commune de 9 500 habitants. Après l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique organisée en 2023 et l'enquête parcellaire en vue de la accessibilité des terrains au cours desquels les habitants ont pu consulter les pièces et émettre leurs observations à la commissaire enquêtrice, la ville a organisé un forum citoyen le 16 novembre au cours duquel trois projets ont été présentés. La municipalité explique avoir recueilli les avis et questionnements des Beauchampois qui vont permettre d'enrichir et finaliser l'analyse et déterminer ainsi le promoteur. Ce dernier sera choisi en mars, a indiqué lors de ses vœux Françoise Norman, maire de Beauchamp. Michel Mansou, maire de Luzarche, a d'ores et déjà annoncé la couleur pour les élections municipales de mars 2026. L'édile a annoncé sa candidature en collaboration avec la liste de Simon Chambry pour la prochaine élection dans une démarche sans étiquette politique. Et puis la remise des prix des concours Maison et Jardin Fleuris et Décoration et Illumination aura lieu demain, jeudi 16 janvier à 18h30 au Centre culturel de l'Orangerie à Roissy en France. C'était vos dernières informations valdoisiennes sur IDFM Radio.
La matinale.
De 7h à 9h30, c'est la matinale avec Christophe. Avec Christophe.
Réveillez-vous avec IDFM Radio, votre radio de proximité.
L'artiste Prince à l'honneur ce matin sur IDFM Radio, grâce à notre invité du jour, l'auteur Ersin Lebovitch, qui a publié dernièrement Prince, expérience dans la tête du génie. Nous allons retrouver votre invité dans moins de 5 minutes. Juste avant, c'est Alvaro Soler.
Causando impresión, cada día cuando levanta, brilla como el sol. Su vestido de seda calienta mi corazón, como en una novela en la televisión. Me acerco a ti, bailemos, juguemos, acércate, oh, porque mi cintura necesita tu ayuda. No lo tengo en las venas y no la puedo controlar. Creo que mi cintura choca con mi cultura. Tropiezo con la arena,
nos bajamos a la playa para así practicar. Pronto por la mañana y así no hay nadie más. Cuando bailo contigo, tu cuerpo me da calor. Así travesito, mi fruta de la pasión. Me acerco a ti, bailemos, juguemos. Acércate, oh, porque mi cintura necesita tu ayuda. No lo tengo en las venas y no la puedo controlar. Y bajando, bajando, olvidando, olvidando que estoy bailando, bailando. Como las olas del mar, ven hacia mí, que ya no puedo parar. Ven hacia mí, como las olas del mar, ven hacia mí, ya no puedo parar. Y bajando, bajando, olvidando, olvidando, que estoy bailando, bailando, y así está el amanecer, porque mi cintura necesita tu ayuda.
Merci Nebovitch est toujours avec nous. Merci de nous accorder quelques minutes de votre temps. Journaliste à France Info, je le reprécise.
Merci à vous Nicolas, je le redis aussi.
Où vous intervenez un peu tout le temps sur l'antenne de France Info.
Non, le week-end, 14h-17h.
Principalement.
Samedi et dimanche. Oui.
On continue à parler de Prince sur IDFM Radio. Prince Expérience dans la tête du génie, un livre disponible depuis le mois de juin, où on parle des grands événements de sa carrière musicale. Ça démarre par
sa mort.
Sa mort. Comment a été décidé justement de sélectionner le début du livre, de parler tout de suite de la disparition de Prince? Parce qu'on l'a dit, ça a été un choc, on s'y attendait pas.
Voilà, pour cette raison-là, ça m'a semblé évident, puisque pour moi c'était le point de départ des questions qu'on se posait tous sur Prince. Quand je dis nous, je pense aux fans essentiellement, mais la surprise a été telle que ça me semblait logique de partir de ce point-là pour ensuite remonter tout le fil de sa vie et de sa création, essayer de comprendre comment on y était arrivé. C'est ce que j'explique dès les premières lignes du livre. Voilà. J'essaye de remettre les pièces du puzzle dans l'ordre pour comprendre comment cet homme qui était aussi sain, aussi clean, aussi dévoué à son art et à sa musique est mort d'une overdose de fentanyl, lui qui ne se droguait pas au sens de la grande tradition entre guillemets du rock'n'roll. Voilà, comment ça a pu arriver en 2016 alors qu'il avait à peine 57 ans.
Et le livre se termine sur quoi exactement?
Il se termine, j'allais dire, il faut le lire pour le savoir, mais il se termine sur aujourd'hui, c'est-à-dire les questions qui se posent, les disputes d'héritage, comment son héritage est géré, puisqu'il a laissé énormément de musique, il a laissé énormément de choses derrière lui, et une grande famille aussi, donc ça pose un certain nombre de soucis. On voit bien depuis sa mort les sorties qui ont eu lieu, et puis les projets qui sont en cours, certains se font, d'autres ne se font pas, enfin voilà, ça donne lieu, et finalement on se demande pourquoi ça se passe comme ça. Je veux dire, est-ce qu'il a d'une certaine manière planifié, est-ce que ça peut être le dernier acte de contrôle de Prince, de laisser quelque chose d'ingérable pour tous les autres, alors qu'il le gérait lui-même de manière assez exemplaire.
Et du coup, en menant l'enquête, vous êtes rentré en contact avec des personnes très proches de Prince.
Oui, certaines personnes, comme son ingénieur du son, Susan Rogers, qui a bossé avec lui dans la grande, grande période, c'est-à-dire du tout début des années 80. Je crois qu'elle arrive en 82, 83, et elle est restée jusqu'au Black Album, c'est-à-dire 88, 87, 88. Donc elle a connu vraiment, elle a travaillé avec lui quasiment en tête à tête, elle l'a enregistré dans toutes les conditions possibles, et elle a une analyse extrêmement pertinente, puisqu'à la suite de ça, elle, peut-être du fait d'avoir côtoyé de si près ce génie, elle s'est intéressée au fonctionnement du cerveau humain, particulièrement chez les artistes. Donc elle a fait des études de neurologie et de la naissance de la créativité. Elle a une analyse très très forte sur cette catégorie de gens à laquelle Prince appartient, qui est très très rare. C'est-à-dire, elle donne trois critères, et il me semble intéressant de le dire ici. Dans cette catégorie-là de créateurs, d'immenses créateurs, elle relève trois choses, c'est-à-dire d'abord des idées qui sont très fortes, des idées musicales très très fortes et très très bonnes et qui parlent à énormément de gens, mais aussi la capacité à les réaliser. Et là, c'est le virtuose, c'est le musicien virtuose qui entre en jeu. C'est-à-dire, on peut avoir des parties musicales fantastiques en tête, si on n'est pas capable de les jouer, bon, bah, évidemment, on se heurte à un mur. Et la troisième chose, c'est d'être capable de terminer ses projets. C'est-à-dire d'aller au bout. Il y a énormément de gens qui ont de très bonnes idées, qui essayent de les mettre en œuvre, mais ils s'arrêtent jamais, ils finissent jamais, ou ça reste en plan, etc. Et donc ça n'aboutit pas. Lui, il avait ces trois qualités-là, et ça en faisait un musicien exceptionnel, avec en plus un flot d'idées ininterrompues qui donne lieu à des scènes et des anecdotes, mais vous le saurez en lisant le livre.
C'est ce que j'allais dire, il y a effectivement des anecdotes, parce que vous avez vécu des choses de pas forcément de très très près avec l'artiste, mais si, quand même, vous l'avez vu. Non, mais je veux dire, en concert, vous l'avez vu.
Oui, je l'ai vu en concert, mais ce sont des anecdotes.
Pas en interview.
Des anecdotes qui le concernent lui et qui ont été racontées notamment par Susan Rogers. Par exemple, des fois où il... je pense à un moment pendant les sessions de l'album Parade dont on parlait tout à l'heure, où il arrive, il dit mettez une bande, et il dit voilà, je vais jouer plusieurs choses et vous ne coupez pas l'enregistrement, et il enchaîne, et d'abord il se met à la batterie et il joue quatre morceaux à la suite, ensuite il dit laissez tourner la bande, il prend une basse, il joue les quatre mêmes morceaux à la suite, les parties de basse qu'il a en tête. Ensuite, il se met au piano, à la guitare, etc., au chant. Et donc, en fait, il enregistre comme ça les quatre premiers morceaux de l'album Parade. Dans l'ordre, dans la succession, les trois ou quatre, je sais plus exactement. Voilà, donc ça c'est exceptionnel.
En tout cas, il aura enregistré des albums jusqu'à pratiquement sa mort.
Ah oui, toute sa vie.
Ses derniers albums, c'est 2014-2015 à peu près.
Oui, toute sa vie, tout le temps, plus tous ceux qui sont jamais sortis et qui sont dans les stocks. Oui, bien sûr.
Et ces chansons inédites, rares, elles sortiront un jour à votre avis ?
Certaines sont sorties sur les coffrets qu'on a vus, notamment autour de l'album Diamonds and Pearls ou Purple Rain aussi. Les coffrets.
Oui, il y a des rééditions et du coup
et
dans
des
les
inédits,
coffrets.
Des inédits, des concerts, mais il y en a encore comme ça des tonnes, et la discographie pirate de Prince, puisque tout ça est sorti aussi de son vivant. Alors lui, il aimait pas ça, mais on peut se demander s'il n'était pas parfois à l'origine de certaines sorties, dans la mesure où il voulait absolument que les choses arrivent à son public, que la maison de disques n'était pas d'accord. Est-ce que lui-même n'a pas à un moment donné quelques bandes en se disant tiens, bah si certains en font des disques, pourquoi pas, tout en pourchassant les vendeurs de disques pirates. Mais tout ça est très très riche, il y a déjà beaucoup de choses qui existent, et le Prince Estate pourrait tout à fait s'en inspirer d'ailleurs.
Il y aura un film à votre avis ? Un biopic ?
Alors il y avait un projet de documentaire Netflix qui visiblement n'a pas abouti. Oui, il y aura sans doute des biopics, ça
je
ne suis pas devin, mais non ça pourrait tout à fait se faire. Enfin il y a en tout cas il y a matière à plusieurs biopics même.
Parce que là Michael Jackson, il va y avoir un événement au cinéma cette année, en tout cas. Et
j'ignore, mais il y a matière à une série de biopics, même, si vous voulez. Oui. Il y a tout ce qu'il faut dans la vie et la carrière de Prince pour ça. Oui.
Eh ben, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui.
Merci Nicolas.
Karsine Lebovitch. nous étions avec vous pour parler de ce livre qui est disponible partout, de chez partout, Prince, expérience dans la tête du génie. Combien de concerts vous avez vu quand même de Prince?
Ah, pas tant que ça, moi je l'ai vu 4 fois sur scène. C'est pas énorme.
Non.
4 fois, dont 3 fois en une semaine. Quand il est venu au Grand Palais en 2007 ou 9, je ne sais plus, 2009 je crois. Quand il est venu au Grand Palais, j'ai vu les 2 concerts au Grand Palais, un after show à la Cigale, et puis je l'ai revu sur la toute dernière tournée qu'il a faite, son dernier passage parisien, avec son groupe de filles, entre guillemets, puisqu'il joue avec 3 musiciennes à ce moment-là. Et à chaque fois, c'était évidemment monumental, mais ça c'était la norme, j'allais dire, avec Prince.
Donc dans le livre, on retrouve des déclarations, des interviews,
oui.
Une série d'analyses aussi, des anecdotes, on en a évoqué quelques-unes grâce à vous. Bon retour, merci beaucoup et à très vite sur IDFM Radio. Auparavant, vous aviez fait aussi de nombreux autres ouvrages sur les Beatles et Gainsbourg. Et ce dernier, pour vous, c'est celui que vous vouliez faire depuis presque toujours avant, peut-être les Beatles ou Gainsbourg ou autre?
Non, pas spécialement, mais c'est effectivement, j'ai une passion pour Prince et donc à un moment donné, l'histoire s'est mise en place dans ma tête, donc j'ai lancé ce projet, mais ça n'est que le dernier en date, j'espère qu'il y en aura d'autres.
Prochain, ce sera?
Ah, je ne sais pas encore.
Aucune idée?
Je ne sais pas.
Eh ben, merci beaucoup, Hercine Nebovitch, d'être passé.
Merci.
À bientôt.